On garde, on sait garder les gens qui montent en compétences au fil des années dans notre entreprise, qui ont ce savoir institutionnel, et donc ils restent chez nous et ils nous permettent d'avancer, je pense, de temps en temps.
Ouais. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, office manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous accueillons l'un des cofondateurs d'Axonaut, Nicolas Michel, pour un sujet précis, l'entreprise libérée. Peut-être que vous connaissez déjà Axonaut au travers de l'outil, mais sachez aussi qu'il y fait bon vivre. Et aujourd'hui, nous allons essayer de tout comprendre sur ce concept qu'est l'entreprise libérée. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va et toi ?
Ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Et c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui sur ce podcast et ce nouvel épisode.
Le plaisir est partagé.
Génial. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus précisément, nous parler de ton parcours avant Axonaut ?
Bien sûr. Donc, je suis Nicolas Michel, un des deux fondateurs d'Axonaut. J'ai une formation d'ingénieur logiciel. Et avant de travailler, de lancer Axonaut, j'étais d'abord responsable du support technique, puis responsable informatique dans des entreprises de la région toulousaine.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à créer Axonaut ? Je sais que sur votre site, on a un très beau storytelling de la création de l'histoire d'Axonaut. Mais qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? Et parce qu'aujourd'hui, on vous retrouve partout dans le monde de l'expertise comptable, vous êtes très présent parce que vous êtes un outil un peu passerelle entre clients et experts comptables, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Ok, et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à la création d'Axonaut ?
Simplement, on avait le problème qu'Axonaut résout et on n'a pas trouvé d'outil qui nous convenait, simple et abordable pour les petites entreprises qui sont notre cible. Donc, on a décidé de se lancer dans la création d'abord d'un projet interne qui a grandi au fur et à mesure, dépassé les frontières de notre propre entreprise et s'est répandu de plus en plus.
Et tu parlais du coup d'un problème qui avait été identifié et qui n'était pas résolu hormis par Axonaut. C'est quel sujet ?
C'est très simple en fait, c'est de suivre les prospects et les clients, mais vraiment le cycle client de A à Z. Quand je commence à discuter avec lui, à échanger des messages, il faut que ces messages soient stockés. Ensuite, il faut que je puisse lui faire un devis, transformer ce devis en facture et vérifier que la facture a bien été payée. C'est quelque chose d'assez simple et d'assez basique pour toute entreprise finalement, mais on n'a pas trouvé d'outil efficace qui nous permettait de gérer ça.
D'accord. Et donc tu disais que toi tu étais ingénieur informatique. Et Nicolas, du coup, ton co-associé, co-fondateur, quelle est sa formation ?
On a exactement la même formation.
Exactement.
Donc,
la même.
Voilà, on est vraiment parti de l'ingénierie logicielle, du développement.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait vos... Enfin, du coup, vous avez un peu le même profil de ce que je comprends. Qu'est-ce qui fait un peu vos différences et votre binôme ?
Alors oui, l'informatique, c'est très vaste finalement. Lui a été développeur, puis chef de projet, donc vraiment spécialisé dans la partie développement. Tandis que moi, j'ai commencé comme responsable du support, responsable informatique plus général sur les parties infrastructure, etc. Et donc finalement, on a des expériences assez différentes, même si on a la même formation à la base.
Je vois. Et vous connaissiez d'avant ? Vous travailliez déjà avant, ensemble ?
On s'est rencontrés dans notre premier boulot. D'accord. Il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a sympathisé et qu'on a travaillé ensemble d'abord en tant que collègues, puis où on s'est lancé ensemble.
Ok. Et donc de là est né Axonaut. Quand on parle d'Axonaut, du coup, il y a cette notion d'entreprise libérée. C'est une notion qui ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le concept ?
Oui, enfin, en tout cas, je peux expliquer la façon dont moi je le ressens. On est parti du constat qu'en fait, on travaillait toujours mieux quand on savait pourquoi on faisait quelque chose. On a eu des expériences où parfois on nous disait, on nous confiait une tâche, il fallait la faire, mais on ne comprenait pas vraiment pourquoi, ou alors on se disait carrément que c'était plutôt contre-productif par rapport au but global de l'entreprise. Donc le principe de base pour nous, c'est vraiment d'expliquer, de convaincre et que chacun se retrouve en fait dans l'aventure à avancer ensemble, puisqu'on voit où est-ce qu'on veut aller, on voit pourquoi on fait les choses et en quoi ça nous permet d'aller vers ce but.
D'accord. Et vous aviez déjà eu une expérience comme ça auparavant? Qu'est-ce qui vous a amené à l'amener chez Axonaut?
Non, en fait, c'était plus par contraste finalement par rapport aux expériences vécues, où on va dire que c'était plus classique et où on avait souvent ressenti l'envie, le besoin de faire des choses, de prendre des initiatives, d'être plus large. Et donc, on s'est dit que dans l'entreprise que l'on allait créer, on allait offrir ça à nos collaborateurs.
Et ça se traduit comment?
Ça se traduit avant tout par une grande autonomie. On définit ensemble les objectifs, en comment on va avancer ensemble, et ensuite ce qui doit concrètement être fait. Mais bien, c'est aux collaborateurs de le décider.
Ok. Moi, j'ai déjà entendu parler d'entreprises libérées dans un cabinet d'expertise comptable. Et pour eux, il s'agissait d'avoir la liberté, par exemple, de choisir son salaire, avoir la liberté sur le nombre de congés, enfin, il n'y avait pas de compteur de congés. Est-ce que vous, c'est organisationnel, enfin, est-ce que c'est dans votre productivité que c'est libéré, ou est-ce qu'il y a aussi cette partie un peu sociale où chacun est libre d'agir comme il le veut?
Il y a aussi cette partie sociale. Alors, on n'a pas la possibilité, aujourd'hui en tout cas, que chacun choisisse son salaire, mais on discute avec tout le monde de la politique salariale. On a, par exemple, l'an dernier, voté sur la façon dont on allait organiser les augmentations. On discute au niveau des congés aussi, parce que c'est un débat, justement, les congés limités. Est-ce que finalement, on n'en prend pas moins quand on a un peu de pression sociale de ses collègues par rapport à avoir un compteur bien défini où chacun prend finalement les congés auxquels il a droit? On penche plutôt pour cette solution. En tout cas, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a finalement un compteur classique. Après, chacun prend ses congés quand il veut. C'est jamais arrivé, je pense, qu'on refuse des congés posés. Mais on n'est pas convaincu par le fait d'avoir des congés limités, mais on est encore une fois ouvert à la discussion.
C'est vrai que j'avais entendu la même chose au sujet des congés limités, que souvent les gens, enfin les salariés, n'osaient pas forcément à prendre plus que la norme, entre guillemets, et qui parfois prenaient même moins parce que on peut avoir cette pression sociale en disant ah je pars trop en vacances ou je profite de ça alors que je devrais travailler. Donc c'est vrai que c'est un peu.
C'est pas évident parce que si est-ce qu'on part, pourquoi est-ce qu'on partirait plus que son voisin? Voilà, comment est-ce qu'on le justifie? Pourquoi lui il part, lui il part pas? Donc finalement, je trouve personnellement que c'est pas plus mal de chacun un droit à ça, chacun prend ses congés et au moins il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de ressentiment entre les collègues.
Oui, pas de charge mentale là-dessus. C'est vrai que c'est plutôt pratique. Tu as parlé de vote. Comment ça se passe, l'organisation des votes? Parce que vous êtes combien chez Axonaut?
On est 23.
23. Et donc, chacun, c'est quoi? C'est une urne, chacun met son avis sur la question?
Oui, ça dépend. Parfois, c'est quand c'est un peu délicat, mais sinon, on se rassemble tous, on discute assez librement. Chacun donne son avis et on peut parfois voter à main levée. Il faut aussi assumer ses choix. C'est une contrepartie, hein, d'avoir les. Faut assumer derrière. Mais tout le monde, voilà, peut échanger, donner son avis, quel que soit son poste, ça n'a pas d'importance.
Et c'est des choses qui arrivent sur des moments dédiés ou est-ce que vous avez une récurrence mensuelle ou hebdomadaire pour aborder certains sujets?
Non, elle n'est pas fixe. Après, on a des réunions hebdomadaires, on peut aborder différents sujets, mais c'est plutôt quand le sujet le nécessite, on organise un point où on a tout le monde et où on échange.
D'accord. Vous êtes structuré sous forme d'équipe
Oui,
ou de
alors
projet?
encore une fois, il n'y a pas de cloison. On a des personnes qui ont des différentes missions, donc qui chapeautent ces missions et qui se regroupent selon ces missions. Donc on a des équipes, mais voilà, il y a énormément d'échanges d'informations, de collaboration entre les équipes. C'est ce qu'on essaie en tout cas de promouvoir au maximum.
D'accord, je vois. Est-ce que tu peux nous donner un ou plusieurs exemples concrets de comment vous avez fait, vous, pour mettre en place l'entreprise libérée?
Oui, déjà un exemple assez simple, mais qui est, je pense, relativement parlant, c'est que quand on a des discussions, on va dire des entretiens, par exemple, annuels, on demande au collaborateur, mais quels sont tes objectifs? On ne lui dit pas, voici tes objectifs pour cette année. On lui demande, quels sont tes objectifs pour cette année, pour nous faire avancer. Voilà, c'est vraiment, je pense, l'exemple qui illustre le mieux. C'est la responsabilité de chacun de proposer des choses pour faire avancer l'entreprise.
J'imagine qu'il y a plein de choses positives qui naissent grâce à ce mode de management. On reviendra dessus. Et avant ça, je voulais savoir, c'est quelque chose que vous avez mis en place dès la création d'Axonote ou est-ce que ça s'est mis après
Ça s'est mis très rapidement. Au début, effectivement, sur les premiers recrutés, on discutait beaucoup et puis on a, entre guillemets, adopté cette méthode de laisser un maximum de liberté et de faire définir les objectifs, par exemple.
D'accord. Et comment vous gérez du coup les défis comme la prise de décision, la gestion de conflits, les responsabilités?
Les responsabilités sont gérées, voilà, au niveau des projets. Donc, quand il y a des projets, on a une personne responsable. Cette personne n'est pas responsable d'autres personnes, mais est responsable de son projet. Donc, on invite tout le monde à participer au projet, à donner son avis, mais la personne qui mène le projet tranche au final.
D'accord. Et du coup, quand vous faites des recrutements, comment vous procédez? Parce que du coup, vous n'allez pas forcément chercher un profil de quelqu'un qui est capable de faire, par exemple, je sais pas, telle tâche, vu que ce sont des projets, chacun peut évoluer un peu comme il le veut.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a eu des évolutions, des gens qui ne font pas du tout le même métier que celui pour lequel ils sont arrivés chez Axonote. Mais quand on recrute, généralement, on a des besoins, des expertises que l'on n'a pas en interne. Donc, on recrute une personne pour être un peu responsable de cette section que l'on n'a pas en interne. Et donc, cette personne ensuite va gérer les différents projets demandés par les clients ou ses collègues, en s'appuyant sur ses collègues et sur ses propres compétences. Parce qu'il faut, voilà, faire. C'est pas, on n'a pas de manager qui ne fait que déléguer des tâches. Toutes les personnes chez nous doivent faire, des choses.
Ouais. Et est-ce qu'il y a une nature commune à toutes les personnes qui travaillent chez Axonote dans les valeurs ou dans le savoir-être ou savoir-faire?
Oui, j'ai envie de dire que ce qui nous lie, c'est quand même un certain goût pour l'entrepreneuriat. Finalement, c'est notre mission d'aider les entrepreneurs. Donc, il faut avoir une certaine fibre, une certaine envie de au moins s'intéresser à ce monde-là.
D'accord. Au niveau de. Donc là, on va parler des salariés et de l'impact qu'a ce concept-là sur leur travail, sur leur vie. Comment est-ce que l'entreprise libérée réussit à motiver ou à engager plus les salariés?
Alors, déjà, normalement, les salariés ne font pas des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, puisque, a priori, s'ils n'ont pas envie de le faire, c'est qu'ils pensent que ce n'est pas utile, donc on ne les a pas convaincus. Donc, il y a très peu de choses qu'on est obligé, entre guillemets, de faire. Donc, déjà, en faisant des choses que l'on a envie de faire, on est naturellement, je pense, bien plus motivé. Et c'est le fait aussi de voir que tous ses collègues autour de soi avancent dans la même direction, ça aide aussi beaucoup à être embarqué dans cette aventure et donc à être motivé.
Et du coup, si jamais personne ne veut faire quelque chose, tu as dit que ça veut dire que peut-être ça n'avait pas de valeur ou qu'il fallait pas le faire. Mais est-ce que parfois il y a des sujets quand même qui sont très importants et pour autant personne ne veut le faire? Comment vous gérez cette situation?
Ça arrive, et donc pour le coup, pour ça, on répartit sur toute l'équipe. On a l'exemple du support client où personne ne veut faire que ça. C'est pas que les gens ne veulent pas le faire, mais c'est les gens ne veulent pas faire que ça toute la journée. Et donc du coup, tout le monde le fait. On répartit les demandes clients à l'intégralité de l'équipe. C'est une des choses qui est imposée, par exemple, chez nous, c'est de répondre aux demandes des clients. On n'en a pas beaucoup tous les jours, mais il faut le faire.
Et ça me fait penser à quelque chose parce que je me rends compte que du coup, chaque axonaute, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais quand vous avez des besoins et que vous recrutez, vous établissez une fiche de poste avec des missions précises. Comment vous arrivez à trouver des personnes qui, vous êtes sûr qu'elles vont vouloir s'épanouir dans ce sens-là et pas partir sur d'autres projets?
On ne peut jamais être sûr, puisque, comme je disais, on a des personnes qui sont arrivées. Bah, à l'époque, quand on avait un service support client dédié, par exemple, des personnes sont arrivées et puis, au bout de quelques temps, nous ont dit, bon, le support, là, je ne peux plus. Et donc, plutôt que de s'en séparer, on a fait évoluer sur d'autres missions. Donc, on ne peut jamais être sûr au départ de ce qui va se passer. Mais si on a des besoins sur un aspect particulier, on recherche quelqu'un qui, selon nous, va s'épanouir dans cet aspect-là et donc complémenter l'équipe.
J'ai fait aussi des recherches sur ce qu'est une entreprise libérée et j'ai remarqué, enfin j'ai trouvé à plusieurs reprises que les entreprises libérées faisaient preuve d'une meilleure agilité opérationnelle que d'autres entreprises. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu observer au travers de tes différentes expériences?
Oui, en tout cas, enfin, ce que je ressens chez Axonote par rapport aux autres entreprises, bon, qui étaient parfois peut-être un peu plus grandes, mais chez Axonote, en tout cas, on sait être très réactif quand il se passe des choses, quand il y a de nouvelles opportunités. Tout le monde peut se synchroniser en un quart d'heure et produire, par exemple, des visuels pour la publicité, mettre en place des campagnes, coder ces nouveaux tarifs, ces nouvelles offres, et on peut finalement en quelques heures, lancer une nouveauté sur le produit qui colle à l'actualité.
Ah oui, c'est dingue. Et donc chacun doit être hyper autonome de son côté.
Oui, c'est effectivement le point numéro un sur lequel j'insistais, c'est il faut avoir de l'autonomie, il faut savoir travailler en autonomie. Ça convient pas forcément à tout le monde. On a eu des cas où les personnes ne se sentaient pas très à l'aise dans cette façon de faire, attendaient qu'on leur dise quoi faire. Mais effectivement, c'est essentiel, je pense, pour travailler, en tout cas dans notre façon de voir l'entreprise libérée.
Ok. Et j'imagine aussi que le fait qu'on ait cette liberté de pouvoir s'exprimer, on est aussi plus à l'écoute de sa propre spontanéité et sa créativité. Est-ce que pour vous, ça vous aide à innover de manière plus rapide ou de manière plus pertinente?
Bien sûr, et c'est crucial pour nous d'innover, de faire les choses autrement, puisque quelque part, j'ai envie de dire, faire des devis et faire des factures, les gens n'ont pas attendu Axonote pour le faire. Donc, il faut qu'on fasse preuve vraiment d'innovation, et ça, c'est beaucoup plus simple en discutant, en échangeant. Parfois, simplement juste en écoutant la conversation de deux de ses collègues qui sont à côté dans l'open space, on peut intervenir, suggérer des choses et finalement s'embarquer dans un nouveau projet qui peut être très court ou sur plusieurs mois et qui amène à de nouvelles choses.
Je comprends tout à fait ce que tu dis parce que il y a quelques jours encore, je discutais avec Audrey. On voulait partir sur un projet de vidéo pour la communication de la Macomta. Et on brainstormait dessus. Et puis il y a Jason qui est passé par là, donc notre cofondateur de la Macomta, et qui a dit: Mais pourquoi vous faites pas ça en fait? Et c'est vrai que, enfin, du coup, c'est bien de pouvoir échanger et d'avoir cette liberté-là
de conseils et de partage sur les sujets parce que au final c'est beaucoup plus productif et même un peu engageant, j'ai envie de dire. Et puis d'ailleurs, en parlant d'engagement, est-ce que vous avez un turnover qui est important? Comment les gens se sentent chez Axonaut?
Bien, je pense. En tout cas, on a un turnover qui est très faible. Les gens disent qu'ils se sentent bien. Il y a toujours évidemment des aspects sur lesquels on peut s'améliorer et on travaille. Je veux dire, même chez nous, enfin même chez nous, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais on encourage beaucoup les échanges et chez nous également, les gens disent parfois, ben, je ne suis pas au courant, il faudrait une meilleure communication. On peut toujours s'améliorer sur ce sujet-là.
Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager l'expérience d'un salarié qui s'est totalement épanoui dans ce modèle d'entreprise libérée?
Oui, je pense que c'est par exemple, j'ai pas mal de monde qui a finalement changé de poste. Alors, je ne sais pas qui choisir, mais on a pas mal de gens qui font des choses aujourd'hui, des missions qui n'ont rien à voir, vraiment, encore une fois, avec les missions pour lesquelles ils sont arrivés. Au début, on avait des missions, comme je disais, de support ou de commercial. Et finalement, toutes ces personnes, aujourd'hui, sont toujours chez Axonaut, mais on n'a plus ces rôles-là. Donc, on a des personnes qui chapeautent la partie support. On a des personnes qui s'occupent de la relation avec les experts comptables, et c'était pas du tout le cas au début. Je pense que finalement, la plupart des personnes chez nous s'épanouissent dans ce système avec cette liberté, puisque les gens, voilà, vont naturellement vers ce qu'ils ont envie de faire, encore une fois.
Ok. Là, on parle de choses très positives, on voit beaucoup de bénéfices à ça, mais j'imagine qu'il y a des limites, il y a des défis. Quels ont été pour vous les principaux défis auxquels vous avez été confrontés?
Alors, effectivement, il y a pas mal de défis. On parlait de l'autonomie. Un des plus immédiats, c'est le fait que les gens se sentent perdus, voire parfois dans certains cas extrêmes, pas soutenu, même si on essaye de toujours être disponible. Donc, il y a vraiment ça, vraiment le fait de savoir qu'on va pas nous dire quoi faire, mais qu'il faut décider. Et du coup, certaines personnes se mettent une énorme pression. C'est pas nous qui leur mettons la pression. On leur demande quels sont les objectifs, mais comme ces personnes portent la responsabilité du projet, elles se mettent une pression qui peut parfois monter un peu trop, surtout quand il y a des échecs, et des échecs, il y en a beaucoup, puisqu'on a envie d'essayer beaucoup de choses.
Et qu'est-ce que vous faites du coup pour permettre à ces personnes-là de faire redescendre la pression et de moins être impactées de manière négative?
On discute, on met en place des points réguliers sur le projet pour essayer de voir la direction que ça prend, comment ça peut évoluer. Parfois, on change les missions complètement, on arrête, puisque si ça ne va pas, c'est parfois pas la peine de s'entêter et il faut changer. Et il y a certains cas où il y a des personnes qui sont venues et pendant la période d'essai nous ont dit « cette façon de travailler ne me convient pas ». Du coup, on se sépare en très bons termes. On comprend même ce que c'est pas fait pour tout le monde.
Ouais. Et est-ce que vous êtes en contact avec d'autres entreprises libérées?
Oui, on échange parfois, justement sur les bonnes pratiques, sur la façon de faire.
D'accord. Alors, j'imagine que ce modèle-là, il n'est pas forcément compatible avec tout. Enfin, ça, c'est vraiment mon propre jugement. Ça se trouve, j'ai totalement tort. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des structures sur lesquelles un management de cette manière-là ne serait pas du tout possible?
Peut-être. Je suis un peu partagé sur le sujet, puisque c'est vrai qu'il y a des modes de fonctionnement où il y a des tâches bien précises qui doivent être faites avec un volume et il faut des gens pour le faire. Donc je comprends. Enfin, je ne vois pas forcément comment on pourrait laisser une liberté totale aux personnes qui doivent travailler dessus. Donc, c'est très possible, mais c'est peut-être aussi juste que moi, je ne le vois pas, mais que les gens dans ce milieu, dans ce métier, sauraient faire avec.
Oui, je vois. enfin moi je m'étais posé la question, enfin projeté en me disant bah est-ce que dans un magasin qui vend des vêtements, comment il pourrait avoir comment on pourrait instaurer ça, sachant que il y a quand même un service qui est précis, c'est vendre les vêtements. Donc comment on fait si jamais on veut plus parler aux clients alors que bah c'est la mission, enfin c'est la ressource principale.
Oui, effectivement, dans l'endroit où je travaillais avant, il y avait un service qui était chargé de préparer des colis de ceux qui avaient été vendus aux clients. Et voilà, ces colis devaient être faits, expédiés en temps et en heure. Avec, il fallait respecter une certaine cadence, sinon on était en retard. Donc, j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait être organisé de façon libérée, mais peut-être qu'il y a des façons que je ne conçois juste pas.
Peut-être. Et puis, en même temps, le concept d'entreprise libérée, il est tellement pas fixe que ça peut être libéré sur certains sujets et d'autres non. Donc effectivement, je pense que c'est peut-être une tendance qu'on pourra voir naître ou se généraliser plus tard, on verra bien. On parlera aussi du futur de ce concept pour savoir quel avenir ça peut avoir. Et avant ça, on va parler de la performance et des résultats de ce type de management. Comment vous, ce concept, il a impacté vos performances et la croissance d'Axonaut?
Alors, c'est difficile à quantifier exactement, bien sûr, mais pour moi, c'est un facteur clé de notre réussite. On en parlait tout à l'heure. C'est vraiment en parlant ensemble, en échangeant et en innovant qu'on réussit à être là où on en est aujourd'hui. Donc c'est vrai que moi je ne vois pas Axonaut là où il en est aujourd'hui sans cette façon de faire.
Et si jamais il y avait un autre projet que Axonaut, est-ce que ce serait pareil, une base sur la création de cet autre projet ?
Oui, moi, si je relançais un projet, effectivement, je garderai ça. Sur la performance, on a, par exemple, effectivement, peut-être parfois un peu de retard, de perte d'efficacité au départ, parce qu'il ne faut pas juste dire quoi faire, mais il faut plutôt convaincre et expliquer. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps, mais je suis persuadé que derrière, c'est largement rattrapé par l'implication, la motivation de la personne qui fait la tâche, puisqu'elle la comprend et puisqu'elle a envie de la faire.
Ouais. Et par rapport à vos clients, est-ce que ça a un impact avec la relation ?
Pas forcément directement. Parfois, on a des clients qui, je parlais du support, donc qui demandent mais pourquoi c'est vous qui me répondez ? Parce que pourquoi c'est pas le service client directement ? Donc un petit peu, mais pas fondamentalement. J'ai envie de dire que c'est plus en interne.
Ouais, je vois. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait et vous mesuriez pas forcément qu'il n'y avait pas trop d'indicateurs qui vous permettaient de savoir comment ça a impacté de manière. Ça a impacté les performances d'Axonaut, mais est-ce qu'il y a pas des petites choses qui vous mettent la puce à l'oreille, qui vous disent que c'est cool et c'est exactement ce que vous recherchez?
Oui, mais on parlait du turnover tout à l'heure, qui est très faible. Donc, a priori, voilà, ça ne fait pas fuir les gens. Donc, c'est effectivement un bon indicateur de voir que on sait garder les gens qui montent en compétences au fil des années dans notre entreprise, qui ont ce savoir institutionnel et donc qui restent chez nous. Il nous permet d'avancer, je pense, d'autant plus vite.
Ouais. Et du coup, vos salariés maintenant sont un peu j'imagine qu'ils auraient du mal à retourner à un système de management classique.
Je pense. Après, c'est au goût de chacun, mais je pense qu'on est assez différent. Bon, il existe d'autres entreprises libérées, bien entendu, mais retourner à un système plus classique, c'est sûr que ça ferait un gros changement.
Ouais. Pour revenir un peu à Axonaut, est-ce qu'il y a des nouveautés ou est-ce que vous pouvez teaser, est-ce que tu peux teaser sur quelques projets qui arriveraient?
Alors, je peux parler du projet qu'on a mis en ligne aujourd'hui, la nouvelle fiche client réorganisée pour avoir un suivi encore plus efficace de tout ce fil, de tout ce parcours prospect-client. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant sur cette nouvelle fiche qu'on a, ben voilà, qu'on a généralisée aujourd'hui. Et il me tarde de voir les retours de nos utilisateurs pour voir si ils sont contents, s'il y a des choses à améliorer. Ça, c'est tout, ça, c'est sûr, il y en a toujours. Mais voilà, c'est la nouveauté du jour.
Et ça, c'est une nouveauté qui est liée à une demande plutôt de la part des clients ou justement c'était un projet, enfin chacun s'est exprimé en interne et a dit qu'il fallait faire ça.
C'est les deux. C'est en fait, on recueille en permanence les besoins des clients. Et donc, en interne, ça a été suggéré de faire cette refonte qui permettait de rassembler un ensemble, de répondre à un ensemble de demandes de clients, de souhaits clients et de souhaits en interne de mettre en avant certaines choses.
Et du coup, sur ce projet-là, comment ça s'est fait? En gros, vous aviez le projet. Comment les gens se greffent, enfin comment les gens, comment les équipes se greffent au projet? Qu'est-ce qui fait que ça va être plutôt telle personne ou telle personne qui va s'investir dessus?
Alors là, c'était un projet, j'ai envie de dire, vraiment de développement sur le produit. Donc finalement, de façon assez classique, c'était le responsable produit chez nous qui a fait ses suggestions par rapport aux remontées. Et donc, ils se sont organisés plutôt au sein de l'équipe technique, tout en communiquant avec le reste pour dire, pour se coordonner, que personne ne soit surpris. Que tout le monde sache répondre aux clients. Mais on avait eu, par exemple, sur un autre projet, on a tenté des affichages sur les bus. Et à l'époque, voilà, c'était une personne qui n'était pas du tout dans les services communication, qui avait suggéré ce projet et qui avait mené le projet finalement en contactant les régies concernées, en discutant avec le service qui faisait du graphisme chez nous pour produire les visuels, etc., etc. Donc, avait finalement embarqué plusieurs personnes de différentes équipes dans ce projet.
Ah oui, d'accord. Donc c'est en fait ce qui est dingue, c'est que tout le monde peut travailler avec tout le monde.
Oui, c'est vraiment le but. C'est vraiment ce que l'on recherche, que on travaille vraiment avec tout le monde, qu'il n'y ait pas de cloison entre les services, si j'ose dire.
Et du coup, pour les salariés, ça doit être génial parce que chacun développe un peu d'autres compétences qu'il n'avait pas forcément de base dans ses missions.
Oui, effectivement, c'est enrichissant, je pense. Après, comme toujours, il y a un côté parfois qui est moins idéal, puisqu'il y a des gens dont c'est le métier qui doivent expliquer aux autres pourquoi ça, c'est pas forcément une bonne idée, pourquoi ils l'ont testé, ou au contraire de les soutenir, de les laisser faire. Donc ça, c'est quand ça se passe bien. Mais parfois, il y a des gens qui ont des avis contraires. C'est normal. Et ça peut aussi un petit peu frustrer ceux qui sont plus du domaine et voilà, qui disent, mais ça, c'est pas forcément une bonne idée, mais on peut le tenter quand même.
Ouais, je vois. Est-ce que y a de la formation aussi que vous mettez en place pour accompagner tout ça justement pour limiter un peu cette frustration?
On essaie de proposer effectivement des formations à ceux qui le souhaitent.
D'accord. Donc si je résume un peu tout ce concept, tout est un peu basé sur le volontariat et l'engagement de chacun sur des projets qui naissent soit de l'intérieur, soit de la part des clients ou des partenaires, parce que ça peut venir de partout. Et de là, il y a des votes ou des orientations en fonction de la spécialisation de chacun. Et puis après, tout le monde travaille ensemble et des fois ça marche et parfois ça marche pas.
Exactement, mais c'est vraiment voilà, basé sur l'engagement de chacun et l'envie de mener à bien ce projet spécifique dans le projet global de l'entreprise.
Mais je me dis comme ça, que les gens doivent vraiment être hyper engagés dans ces projets-là.
C'est le but.
Ouais.
C'est le but de tester. Malheureusement, c'était souvent assez difficile de mener à bien enfin, pas de mener à bien ces projets, mais de faire un projet qui ait un réel impact sur l'entreprise. Donc, c'est aussi difficile de gérer éventuellement la déception quand il y a des échecs, mais quand il y a des réussites, évidemment, c'est ultra motivant.
Ouais, c'est clair. On va parler un petit peu du futur de ce concept-là. Toi, tu l'imagines comment dans le monde du travail d'ici quelques années? Est-ce que tu penses que ça va se démocratiser? Est-ce que tu penses que ça va plutôt s'étouffer?
Je pense que ça va continuer à se généraliser. J'ai l'impression que de plus en plus, les personnes recherchent du sens dans leur métier, pas simplement de vendre 8 heures par jour de leur temps à un employeur, mais d'avoir vraiment du sens dans ce qu'ils font. Donc, à mon avis, ça va être un critère de plus en plus de sélection des candidats à l'emploi.
C'est vrai que depuis la dernière crise sanitaire, il y a une tendance générale sur les personnes qui travaillent. C'est que maintenant, plus personne ne veut se prendre la tête à faire un métier et des tâches comme ça, sans sens. Maintenant, les gens cherchent à avoir qu'il y ait une vocation, une valeur dans leur travail. Et du coup, ça a du sens de proposer un système de management comme ça, parce que les gens, ils vont chercher leur épanouissement et ils vont l'entretenir sur le long terme parce qu'ils se sentent engagés.
C'est vraiment notre vision et la façon dont on essaie de mener les choses. Encore une fois, on ne réussit pas à tous les
coups.
Il y a des personnes qui peuvent se sentir finalement au bout d'un moment détachées puisqu'elles étaient venues pour une chose et puis ça n'existe plus et puis ils se sentent un peu perdues. Mais c'est, je pense, mieux que d'essayer d'imposer des choses à des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire ça.
Ouais. Et du coup, dans l'onboarding d'un nouveau salarié, comment vous faites pour préparer ce nouveau salarié à s'adapter à ce système-là?
Déjà, on l'explique lors des entretiens. On est extrêmement transparent, surtout en général, mais là-dessus en particulier pour les entretiens. Donc, on explique bien cette façon de fonctionner. Et ensuite, à l'arrivée, le nouvel arrivant doit passer du temps avec chaque personne de l'équipe pour comprendre ce que chacun fait et pour pouvoir derrière travailler ensemble.
Comme un vie ma vie, en gros, c'est quoi? C'est une demi-journée
Oui, c'est ça, c'est entre un quart de journée ou une demi-journée,
okay,
avec la personne pour essayer de vraiment cerner, de vraiment comprendre les enjeux de chacun.
Ça, c'est génial quand on est une entreprise où il n'y a pas 500 salariés.
Oui.
C'est que du coup, il y a cette proximité-là et cet échange qui peut permettre à chacun de vraiment s'investir aussi et se sentir appartenir à un groupe, quoi.
Oui, clairement, mais c'est vrai que plus le groupe grossit, plus c'est compliqué. Voilà, nous, à 23, je pense que ça se passe très bien. Après, je suppose que plus on grandit, plus c'est un challenge.
Ouais, mais de toute façon, de base, c'est un challenge, donc pourquoi pas...
Toujours,
oui. Si tu avais 3 conseils à partager à quelqu'un qui veut mettre en place ce système-là, une entreprise libérée, qu'est-ce que tu lui dirais?
Alors, moi, je lui dirais d'échanger, de parler avec chacun. Finalement, si on veut mettre en place ce système d'entreprise libérée, on sait que chacun va pouvoir donner son avis. Donc, j'ai envie de dire, la première chose à faire, c'est de demander son avis à chacun, ne serait-ce que sur le système. Qu'est-ce que tu penses de cette façon de travailler? Voilà. Ensuite, je dirais réfléchir, mais vraiment avec chacun aux objectifs, à la façon de faire. Et enfin, non, ça c'est le troisième point plutôt. Et en deuxième, de vraiment réfléchir sur où est-ce qu'on a envie d'aller. Parce que parfois, on est pris dans le quotidien, on fait son travail, et finalement, est-ce qu'on a vraiment un cap? Est-ce qu'on a vraiment des ambitions, des objectifs, une mission à atteindre? Et il faut vraiment se fixer ça à soi-même avant de pouvoir la transmettre aux gens avec qui on va travailler.
Et quand tu parles de définir où est-ce qu'on veut aller, donc tu parles de tout le monde, et en tant que fondateur, est-ce que toi, tu n'avais pas une vision qui, du coup, a évolué parce que les personnes avec qui tu travailles veulent aller dans un autre sens? Comment tu gères ça, cette différence-là? Parce que parfois, ça peut peut-être être totalement différent de la raison pour laquelle t'as créé, vous avez créé le produit.
Oui, ça, c'est un risque, surtout au début, puisque au début, on était deux cofondateurs, donc on était alignés sur la, tu as la vision. Et ensuite, la vision continue à se construire avec les premiers arrivants, puisque, entre guillemets, ils étaient autant que nous, voire plus que nous. Donc, ça s'est affiné, mais on a finalement gardé cette vision. Ben, je pense qu'on a su leur transmettre. On l'a ajusté, évidemment, avec leur ressenti, leurs avis, leurs envies aussi. Mais une fois qu'on a un groupe assez conséquent qui est aligné, eh bien les nouveaux arrivants font bouger finalement la vision de moins en moins. Il faut soit adhérer à la vision à sa façon. Si on n'adhère pas, par contre, ben, c'est difficile de se joindre au groupe vraiment, finalement.
Oui, c'est clair. Et donc là, la vision d'Axonaut à long terme, c'est laquelle?
Ça reste et c'est d'être le premier outil des petites entreprises qui commencent à se structurer et qu'elles puissent n'avoir que Axonote pour gérer leur entreprise jusqu'à faire beaucoup de chiffre d'affaires et embaucher plein de personnes, auquel cas ils pourront changer ensuite. Mais c'est vraiment d'être ce premier outil et d'accompagner le lancement et la croissance des entreprises.
D'être le couteau suisse
C'est ça, quand on
des
se lance, quand on
entreprises.
se lance à l'aventure, d'être le couteau suisse qu'on a dans la poche.
Ça marche. J'ai fait le tour des sujets que je voulais aborder avec toi. Déjà, merci d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci à toi.
Il restera toujours notre fameuse dernière question. Mais avant ça, je voulais savoir si tu voulais rajouter des choses sur le sujet ou si j'ai peut-être pas rebondi sur les bonnes choses ou oublié certains aspects importants.
Non, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Peut-être un point important dont on avait discuté en discutant avec d'autres entreprises libérées. Je pense c'est crucial d'être sincère dans la démarche. Les dirigeants, les fondateurs doivent vraiment s'inscrire dans cette démarche de transparence et de partage de la prise de décision. C'est pas juste adopter ce système pour avoir des employés, mais ça nous plaît pas vraiment. Je pense que c'est très important pour que ça réussisse d'être sincère dans la démarche.
Ouais. Est-ce qu'il y a un coût aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a un coût financier de la mise en place d'un tel système?
Pour moi, pas que je puisse voir en particulier,
Ouais, ça c'est.
pas de coût financier spécifique finalement.
Ok. Bah, merci. Et donc, fameuse
Merci.
question, si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pour quelle raison?
Si j'étais, pardon?
Un compte comptable, lequel serais-tu et pourquoi tu choisirais celui-là?
Alors, oui, je vais répondre comme notre magazine, hein, le 471,
Ouais.
parce qu'on doit faire de tout, on doit partir dans tous les sens. Alors, c'est un peu peut-être un fourre-tout, mais finalement, voilà, on doit s'y retrouver. C'est nécessaire malgré tout, parce qu'il y a plein de petites choses qui ne rentrent pas dans les autres cases et on doit se débrouiller.
C'est vrai que ce compte 471, il est parfois redouté par certains comptables, mais en tout cas, ce qui est génial avec ce compte, c'est que il est tout le temps mis au propre et on peut repartir sur de bonnes bases.
Voilà.
Eh bah, ben, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi si jamais on veut te contacter, comment on fait?
Tout simplement par email. N'importe qui peut m'envoyer un mail ou par LinkedIn. Je suis disponible.
Eh bien, si jamais vous avez des questions sur l'entreprise libérée, Nicolas, vous pouvez le contacter. Et si jamais on veut passer par Axonote, du coup, on va directement sur la plateforme, j'imagine.
Tout à fait.
Super. Eh bien, je te remercie et je te dis à une prochaine.
Merci beaucoup. À la prochaine.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable!